Merci beaucoup d'être branché à l'Alpha 10-13 de Radio Alpha. Je suis maintenant en compagnie d'Étienne Augry. Bonjour.
Bonjour à vous.
Vous enseignez l'histoire et la géographie en anglais en section internationale et vous enseignez à Sciences Po Paris, campus de Nancy. Vous êtes précisément chargé de conférences de méthode en histoire du 19e siècle européen. Vous contribuez également depuis sa création à l'excellente revue L'Éléphant. Nous allons aujourd'hui parler de votre dernier ouvrage, du moins du dernier ouvrage que vous avez dirigé. Il s'appelle Changer de camp. C'est publié aux éditions Novice et c'est un ouvrage qui revient sur le parcours de certains individus engagés dans la vie politique de la France, les deux guerres mondiales, la question algérienne ou l'affrontement Est-Ouest et qui ont, un jour, changé de camp. À travers 14 trajectoires, de l'extrême gauche à l'extrême droite, du gaullisme à l'antigaullisme, du pacifisme au militarisme, de la défense de la colonisation à l'anticolonialisme, de la collaboration à la résistance, cet ouvrage offre une vision inédite de ces basculements. Au début de ce livre, vous écrivez ceci, je cite, « Il arrive que les femmes et les hommes politiques d'aujourd'hui décident de changer de camp. La récurrence de la publication d'un nouveau dictionnaire des girouettes depuis le premier du genre en 1815 lors de la Restauration nous rappelle que ce n'est pas là chose nouvelle en politique et que le sujet continue de fasciner. À votre avis, Étienne Augry, pourquoi sommes-nous fascinés par les girouettes ?
Alors, c'est peut-être le terme girouette est lui-même une des manières de qualifier ces trajectoires. Je pense que chacune et chacun d'entre nous, dans nos croyances, dans nos convictions, nous avons parfois des évolutions. Alors, bien sûr, il s'agissait de retracer des trajectoires parfois très improbables. Donc je pense que chacun et chacune d'entre nous s'interroge aussi sur ces questions-là. Qu'est-ce que ça signifie être loyal à des idées ? Qu'est-ce que ça signifie être loyal à un parti, à une personne ? Et donc le regard sur des personnalités qui ont changé de perspective, je pense, nous permet de réfléchir à nos propres convictions.
Comment a surgi l'idée de ce livre, de réunir tous ces chercheurs, toutes ces chercheuses et de leur demander d'écrire sur ces parcours particuliers, ces trajectoires d'hommes et de femmes qui, un jour, ont dévié à l'opposé ?
Alors au départ, c'est une idée de notre éditeur, Timothée Guillotin, qui est venu me trouver. Voilà, on a déjà travaillé ensemble sur un ouvrage précédent et il a eu cette idée d'explorer justement ces parcours parfois improbables ou en tout cas très, très intéressants. Et on a ensemble discuté, échangé pour centrer cette étude plutôt autour de parcours individuels plutôt que de parler de cette question de manière générale, de parler de groupe. On a pensé que étudier la vie d'une personne permettait justement de sortir de l'étude d'un moment bien précis, mais permettait de comprendre tout ce qui avant. Pouvait conduire à une personne prise dans une situation particulière à décider de changer de camp.
La qualification de ces parcours, de ces girouettes, je reprends ici ce moment, était une difficulté. Vous avez voulu les appeler transfuges à un moment, et puis vous avez écrit, je vous cite, « Si le mot transfuge nous a paru un moment le plus adapté, la réalité des parcours de nos personnages ne peut s'y réduire. Outre qu'il est aujourd'hui facilement associé aux transfuges de classe, très étudiés et débattus en sociologie et en littérature, il ne suffit pas pour décrire des trajectoires complexes. Dans certaines situations, l'approche synchronique nous empêche de comprendre les éléments diachroniques. » Expliquez-nous.
Alors, tout simplement, le terme de transfuge, effectivement, était celui qui nous paraissait le plus adapté. Et pendant un moment, le projet s'est appelé de cette manière-là. Et on trouvait que ça pouvait correspondre à une certaine réalité. C'est-à-dire que ce qui nous a frappé, ce qui ressort de ce livre, c'est que chaque trajectoire est singulière et que peut-être le terme de transfuge, voilà, correspondait à une sorte de trajectoire type, de modèle. Et on voulait a priori éviter ça. L'idée d'étudier plutôt une trajectoire individuelle et vraiment la dimension, que je qualifie là, comme vous l'avez cité, de diachronique, c'est l'idée de traverser le temps. C'est-à-dire que quand on se penche sur la guerre de 39-45 et en particulier les fondements de la France en 1940, on a tendance à se focaliser sur ce moment-là. Et nous, ce qui nous a intéressé, c'est de voir justement tout ce qui précède dans la vie du personnage et qui peut le conduire à à prendre cette décision, ou en tout cas les circonstances vont le conduire à prendre cette décision. Et aussi, ce qui nous a particulièrement intéressé, c'est que finalement, dans ces temps de crise que vous avez évoqués au début de l'entretien, ces moments de crise, ils conduisent forcément à un bouleversement des repères habituels. Donc en fait, ils sont propices à ce que des personnes s'interrogent, et finalement, ces temps de crise, ils conduisent, ils obligent parfois les personnalités politiques en particulier à prendre une décision. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester dans l'attente, on est obligé de choisir telle ou telle solution, on est obligé de choisir entre la résistance d'un côté, le soutien à Vichy et la collaboration de l'autre. Voilà, l'entre-deux est finalement très compliqué parfois dans ces temps de crise.
Quel est le point commun de ces 14 personnages? Donc on y retrouve Gustave Hervé, Jacques Doriot, Robert Chantriot, Mathilde Carré, Marie-Madeleine Fourcade et bien d'autres. Il y en a 14. Quel est le point commun au-delà de leur volte-face? Mais qu'est-ce qui les réunit?
Je pense qu'il y a... c'est très difficile de trouver un point commun à tous ces personnages. Le point commun, c'est qu'on s'intéresse à des personnages qui à un moment donné accèdent ou sont proches du pouvoir. Donc on est plutôt dans une dimension d'action politique ou intellectuelle. On a aussi plusieurs écrivains. Donc en fait, on s'intéresse à des personnalités publiques. C'est-à-dire que, bien entendu, changer de camp, ça peut être dans beaucoup de domaines. On pourrait parler bien sûr du sport ou d'autres sujets, mais ici, c'est vraiment l'action politique. En dehors de ça, moi, ce qui me frappe, c'est que justement, il y a pas vraiment de règles, il y a pas vraiment de points communs. Comme vous l'avez dit, ces trajectoires, elles vont dans des sens différents, de l'extrême gauche vers l'extrême droite, inversement. Et parfois, dans ces changements de camp, si je puis dire, la dimension personnelle et intime est très importante, mais dans d'autres cas, c'est plutôt le plan des idées qui va l'emporter. Dans d'autres cas, c'est plutôt le rapport particulier à un homme ou à une personnalité politique. Donc, au risque de vous décevoir, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de point commun en dehors de ces volte-face qu'on a pu identifier.
Oui, mais vous écrivez cependant, je vous cite, « La richesse des parcours étudiés dans cet ouvrage et des engagements dans la vie publique met en lumière, dans la plupart des cas, une soif ou une quête qui peut être de reconnaissance, de revanche, de pouvoir, tout simplement, même si celui-ci peut s'exercer dans l'ombre. On est face à 14 personnages particulièrement ambitieux. »
Oui et non. C'est-à-dire que certains, clairement, c'est la question du pouvoir et de l'ambition qui va les guider. Pour d'autres... ce pouvoir, il va pas véritablement être exercé, ou le fait de changement de camp peut impliquer une perte de pouvoir. Et dans ce cas-là, ça peut être aussi le fruit du courage. Mais on a aussi quelques personnages, je pense en particulier à Gustave Hervé, qui a été étudié par Julien Blottière. Gustave Hervé, Julien Blottière nous raconte que, précisément, on a presque l'impression qu'il aime se mettre dans une posture de contestation et un peu prendre les choses à contre-courant, comme si justement le pouvoir ne l'intéressait pas, mais ce qui l'intéressait, c'était l'esprit de contradiction presque. Pour vous donner un exemple, il est socialiste, antimilitariste, anticlérical, antinationaliste, et il va basculer complètement de l'autre côté. Il va, à un moment donné, dans les années 30, en venir à la conclusion que Pétain est l'homme qu'il faut pour la France, mais au moment où Pétain devient... dirigeant de la France à partir de mai-juin 1940, et surtout en juillet, eh bien là, ça l'intéresse plus, en fait. Donc, finalement, on a... Alors, peut-être que je prends volontairement un contre-exemple ici, mais ici, c'est pas véritablement le pouvoir. Et je dirais que, globalement, les changements de camp ici, qu'on étudie, conduisent plutôt à écarter du pouvoir ces personnes-là. Et c'est peut-être justement ce qui différencie... d'une girouette au sens classique du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui va sentir le sens du vent et qui va être prêt, typiquement Talleyrand en 1815 incarnait beaucoup ça, changer de camp pour conserver ou pour garder le pouvoir. Ici, on n'est pas véritablement dans ce cas de figure-là.
Je vais ici citer les chercheurs et chercheuses qui vous accompagnent dans ce livre. Il y a donc Julien Blottière, Véronique Chalmet, Frédéric Charpier, Jean Elgamal, Bastien Jean, Guy Konopnicki, Alexandre Lomont, Cyrielle Lemoigne-Tolba, Mehdi Moraz et Jérôme Posy, ainsi que Romain Rosseau. Des 14 parcours que vous proposez dans ce livre, donc qui s'appelle « Changer de camp, 14 volte-face au XXe siècle » publié aux éditions Novice, lequel, à titre personnel, vous intrigue le plus? Vous qui en avez d'ailleurs écrit deux, celui de Jacques Doriot et Jacques Soustelle.
C'est ça. Alors, bah, évidemment, c'est ce dont je peux parler le plus facilement, et celui, ben, peut-être qui est le plus fascinant, c'est Jacques Doriot, mm-hmm. Parce que lui, il est dans sa jeunesse très engagé du côté du communisme. Hein. Il fait de la prison en raison de ses engagements communistes. Donc, il est né en 1890, donc il arrive à l'âge adulte dans les années 20, si vous voulez. Et puis, il connaît une trajectoire ascensionnelle au sein du Parti communiste. Mais ça bloque un petit peu, c'est-à-dire que peut-être son ambition est contrariée, et puis il finit par être expulsé du Parti communiste en 1934, et puis il va, mais très rapidement finalement, basculer du côté d'une forme de fascisme à la française. Et donc là, bien sûr, c'est très fascinant, parce qu'on se dit comment est-ce possible qu'un homme qui milite et qui est très actif à l'extrême gauche, qui donne toute sa vie et tout son temps à une cause, bascule complètement dans un engagement opposé. Donc là, il y a une fascination, et ça rejoint aussi votre première question sur pourquoi ça nous intéresse. Voilà, ça interroge les notions d'engagement politique, de loyauté, de fidélité à des idées. Là, on a un homme qui peut-être choisit de changer complètement d'idées et d'engagement politique, peut-être pour créer un parti qui va être son parti, et pour lequel il va recevoir beaucoup de soutien dans un premier temps. Donc là, on a véritablement un parcours très fascinant. Et je dirais que tous ces parcours-là sont d'autant plus fascinants qu'il y a toujours quelque chose qui nous échappe, en fait. Même si on a des éléments très précis, des témoignages des personnes eux-mêmes, des archives, bien entendu, il y a toujours quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre, et ça explique aussi la fascination, c'est-à-dire que cette incompréhension, plutôt que de nous décourager, elle nous pousse à aller encore plus loin dans la recherche. Donc voilà, Jacques Doriot est forcément celui qui m'a moi le plus fasciné. Le colonel Rémy est intéressant aussi parce que alors il a été traité par Cyrielle Lemoyne-Colbas, parce que il est très proche du général de Gaulle, hein, il est au service du général de Gaulle pendant la Seconde Guerre mondiale, et puis après la guerre, il va à partir de 1950, il va prendre la défense du maréchal Pétain, en disant que c'est de Gaulle qui lui-même est d'accord avec ça. Donc on a là aussi quelque chose d'assez surprenant. On comprend pas bien pourquoi il prend cette direction là. Je suis aussi très intéressé par le parcours de Jacques Paris de Bollardière, qui a été traité par Mehdi Moraz, qui est un officier parmi les plus décorés de la Seconde Guerre mondiale, parachutiste, qui sert en Indochine, et qui, à un moment donné, refuse la pratique de la torture en Algérie. On constate le courage d'un homme qui est prêt à ruiner sa carrière militaire par fidélité, en fait, à des convictions. Donc là, on est dans une autre forme de fascination, c'est-à-dire que Doriot, bah évidemment, dire qu'on est fasciné par Doriot, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec la trajectoire de Doriot. Dans le cas de quelqu'un comme Paris de Bollardière, on ressent davantage d'admiration et de pour le geste, hein, qui a consisté à renoncer à des décorations, renoncer à des promotions par fidélité à des idées. Donc cette question de la fidélité ou de la loyauté, elle me semble importante aussi, parce que on parle de gens qui changent de camp, mais ça peut être changer de camp par fidélité, ou en tout cas ça peut être basculer par fidélité aux valeurs auxquelles on croit. C'est pas forcément une question de trahison, en quelque sorte.
Pour ma part, le parcours qui m'a le plus surpris est celui de Roger Garaudy, qui a été traité dans ce livre par Guy Konopnicki. D'ailleurs, le chapitre a un titre assez comique. Roger Garaudy, Jésus, Staline et Mahomet, puisqu'effectivement, on parle d'un homme politique, donc qui a été député, sénateur, écrivain, négationniste, qui s'est engagé dans des questions politiques très différentes et religieuses aussi, puisqu'il s'est converti successivement au protestantisme, puis au catholicisme, puis à l'islam.
Oui, alors c'est un personnage, là aussi, fascinant par ses multiples vies, hein, alors effectivement, vous mentionnez la dimension religieuse. Ce qu'il faut dire, c'est que dès l'époque où il était au Parti communiste, hein, puisque c'est là qu'il connaît son ascension, il est plutôt en charge des relations avec les religions. Donc ça veut dire qu'il a déjà cette spécialité, entre guillemets, pour le Parti communiste, d'être dans le dialogue avec les autorités religieuses. Et puis bien évidemment, d'un point de vue politique, voilà, on comprend pas bien la cohérence de tout ça. Il a eu aussi dans les années 70 une période un petit peu écologiste. Enfin voilà, il a des engagements idéologiques très très variables. Et puis bien sûr, avec ce passage final par le négationnisme, là aussi ça le ramène très clairement du côté de l'extrême droite. Et en même temps, Roger Garaudy, si on lit ce qu'il a écrit, il a beaucoup publié. Et ses livres ont été connu un certain succès à différentes époques, c'est que lui revendique une certaine cohérence. Et ça, c'est le cas de beaucoup de nos personnages qui vont parfois assumer des changements de camp et assumer des changements d'opinion, mais qui le plus souvent vont dire non, ce n'est pas moi qui ai changé. D'autres qui ont trahi les causes qu'ils prétendaient servir, et moi, j'ai simplement opéré un retour à l'essentiel et à la vérité de cet engagement. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant et de fascinant. C'est la cohérence affirmée, en tout cas énoncée par tous ces personnages. Dans le cas de Garaudy, c'est très vrai. Dans le cas de Jacques Soustelle aussi, qui a rompu avec De Gaulle, il explique que c'est pas Soustelle qui a trahi De Gaulle, c'est De Gaulle qui a trahi le gaullisme originel que Soustelle voulait servir. Donc vous voyez on pourrait qualifier ça de gymnastique, mais en fait c'est aussi des parcours de vie qui interrogent cette question-là sur l'époque change, et est-ce que au fur et à mesure que l'époque change, est-ce que rester fidèle à ce qu'on croyait au départ, c'est un changement, une trahison, ou est-ce qu'au contraire c'est autre chose? Voilà, ça interroge aussi la question de l'évolution d'une époque et d'une société.
Étienne Augry, ce sera ma dernière question. Vous écrivez dans cet ouvrage, qui s'appelle donc « Changer de camp », publié aux éditions Novice, que, je cite, « l'histoire a tendance à vomir les tièdes », c'est-à-dire.
Alors ça, c'est une citation de la Bible, hein. C'est l'Apocalypse aussi qui... je cite justement ce passage de l'Apocalypse, hein. « Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche ». Ce que je veux dire par là, c'est que l'histoire en général, alors bien sûr, on peut voir des choses différentes, mais dans ces moments de crise sur lesquels on s'est penché, la neutralité n'était pas possible en fait. Hein, et la tiédeur peut être cette neutralité. Je pense à la guerre d'Algérie précisément. Hein, un autre personnage étudié, c'est Jacques Chevalier, qui était le maire d'Alger, qui a un parcours un peu similaire à Camus. Camus est un peu dans cette situation-là. Mm-hmm. Il ne veut pas choisir de camp entre le FLN et les partisans de l'Algérie française. Donc finalement, l'histoire, dans ces circonstances-là exceptionnelles, a tendance à vomir les tièdes, c'est-à-dire à ne pas accepter ceux qui refusent de choisir entre deux options. Ce sont des époques de grand manichéisme, et où finalement les crises conduisent à des choix dramatiques. Et en ce sens-là, effectivement, les tièdes ont parfois du mal à traverser ces époques en portant indemne.
Changer de camp, 14 volte-face au XXe siècle, c'est un ouvrage dirigé par Étienne Augry, publié aux éditions Novice, un ouvrage original et intéressant que je vous conseille absolument, chers auditeurs, chères auditrices, d'aller acheter et lire. Changer de camp, 14 volte-face au XXe siècle, par Étienne Augry. Merci beaucoup.
Merci beaucoup de m'avoir invité.